VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président élu Donald Trump s'est montré confiant dans le fait que tous les membres qu'il a choisis pour son cabinet seront confirmés à leur poste par le Sénat, lequel entame ce mardi les audiences de confirmation. Les précisions de John Lindon.
9 auditions de confirmation sont calées cette semaine, malgré les protestations des démocrates qui trouvent ce rythme trop cadencé. Jeff Sessions, nommé à la tête du ministère de la Justice, et John Kelly, au département de la Sécurité intérieure, sont les premiers à être interrogés par les sénateurs. 4 auditions sont prévues demain, dont celle de Rex Tillerson, retenu pour le poste de chef de la diplomatie. Ce calendrier serré a provoqué les remontrances du bureau d'éthique du gouvernement, qui n'a pas eu suffisamment de temps pour vérifier les antécédents des candidats dont certains estiment ce bureau ont potentiellement des problèmes d'éthique. Les démocrates ont cependant peu de chances de bloquer ces nominations. Une majorité simple est requise pour confirmer les candidats et les républicains disposent de 52 sièges sur 100 au Sénat. Par ailleurs, Donald Trump a nommé son gendre Jared Kushner, 36 ans, haut conseiller à la Maison-Blanche.
Toujours aux États-Unis, Barack Obama, qui cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, prononce aujourd'hui son dernier discours en tant que président du pays. Des adieux à la vie politique américaine à Chicago après 2 mandats à la Maison-Blanche. Barack Obama sera accompagné de sa femme Michelle et du vice-président Joe Biden pour son discours d'adieu. Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, après la nomination de Daniel Kablan-Duncan comme vice-président, la classe politique ivoirienne réagit. Kablan-Duncan, qui était jusque-là premier ministre, devient du coup le dauphin constitutionnel du président Alassane Ouattara. Abdourahmane Dia.
Le président Alassane Ouattara a annoncé la nomination de Daniel Kablan-Duncan ce matin. Il n'a pas tari d'éloges sur l'homme qui a été son premier ministre depuis 2012. L'opposant Pascal Afinguesson, le patron du FPI, reconnaît ses qualités, même s'il s'empresse d'ajouter qu'il faudra le juger sur ses actions. Un autre ténor de la classe politique, Albert Mabritoakez, le leader de l'UDPCI, parle d'un homme connu pour sa loyauté et sa compétence. Membre du PDCI, allié du RDR au pouvoir, Daniel Kablan-Duncan est un haut fonctionnaire qui a longtemps travaillé à la BCAO aux côtés de M. Ouattara, qui a confirmé qu'il n'allait pas se présenter pour un troisième mandat. Après la réélection de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale et la nomination d'un vice-président, l'attelage institutionnel prend progressivement forme après le référendum du mois d'octobre et les législatives du mois dernier.
Crise en Gambie, la Cour suprême gambienne se dit dans l'impossibilité de statuer sur le recours du chef de l'État, Yahya Jammeh, contre sa défaite électorale face à l'opposant Adama Barrow, avant plusieurs mois, faute de juge. Les détails avec Bagassi Koura.
L'information émane du président de la Cour, Emmanuel Fagbenle, qui dit attendre l'arrivée de juges du Nigeria et de la Sierra Leone dans les prochains mois. Il a souligné que ces deux pays avaient indiqué ne pas disposer de magistrats pour remplir cette mission dans l'immédiat. Le président nigérian de la Cour suprême a précisé que l'audience qui était prévue ce mardi a été renvoyée au 16 janvier pour permettre de résoudre pacifiquement le litige avant la fin de la transition le 19 janvier. Une autre mission de la CDAO est attendue demain à Banjul. Le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre, après avoir pourtant félicité Adama Barrow pour sa victoire.
Sénégal, procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré devant un tribunal spécial africain à Dakar. Des milliers de victimes de l'ex-dictateur risquent de ne pas être indemnisées faute d'identification, ont affirmé ce mardi des avocats des parties civiles avant la suspension de l'audience jusqu'à demain. Les critères retenus pour obtenir réparation, l'identification et l'audition des victimes posent problème, a expliqué maître Jacqueline Moudéina, une avocate des victimes au deuxième jour du procès qui se tient en l'absence de l'accusé. Nous sommes dans l'impossibilité d'avoir des actes de notoriété pour tous les demandeurs. Et toutes les victimes n'ont pas eu les moyens de venir à N'Djamena pour être auditionnées, a précisé madame Moudéina. Rappelons qu'Hissène Habré a été condamné le 30 mai à la prison à perpétuité, notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a été ensuite condamné en juillet à payer jusqu'à 20 millions de francs CFA, plus de 30 000 euros par victime. La décision finale dans son procès est attendue d'ici le 30 avril, date d'expiration du mandat du tribunal. Le verdict sera définitif.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, le SINEX, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, membre de la plateforme revendicative syndicale en grève, lâche ses compagnons de lutte. Après 4 mois d'arrêt de travail qui bloque les rentrées scolaires et académiques 2016-2017, le syndicat en question vient de suspendre sa participation à la grève pour 1 mois. Notre correspondant Anjamina André Kodmajingar fait le point.
Cette décision a été prise suite à la rencontre que les responsables du syndicat ont eue ce lundi 9 janvier 2017 avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Sous la menace des hautes autorités, le SINEX a capitulé. Non seulement il appelle à la reprise des activités académiques, mais suspend son président pour avoir signé le document de la plateforme dénommée MESSI, Mouvement pour lever citoyens au nom du SINEX sans informer la base. Dr Faustin Dingaonarbe-Laubol est le secrétaire national aux relations extérieures et à la communication du SINEX.
Le gouvernement avait eu une stratégie sadico-cynique d'amener le SINEX à être responsable de l'année blanche, ne pas nous payer le mois de janvier et geler nos primes jusqu'à octobre 2017. Nous avons eu partout des pressions, des menaces, puisqu'on est parti avec un document que le SINEX a signé dans le MESSI. Et ils nous ont accusé qu'on a basculé dans la politique. Et là, nous sommes menacés de dissolution.
Quelques syndicalistes rencontrés à la Bourse du Travail se disent déçus du comportement des responsables du SINEX.
Je trouve que c'est une trahison dans la mesure où nous avons travaillé ensemble. Et s'il faut suspendre ou lever la grève, on doit lever ensemble. C'est une lutte sociale. On ne peut pas demander à redresser la situation sociale sans pour autant parler de la politique. Je trouve que c'est assez navrant que des chercheurs au niveau de l'université nous fassent compagnie alors que le bout du tunnel n'est pas loin. Je pense qu'il leur manque la culture de lutte syndicale.
Pour moi, c'est une surprise aussi comme tout autre, mais j'émets quand même des réserves. Si c'est une défection, effectivement, ça va fragiliser la lutte.
Je suis un peu vraiment déçu dans le cadre de la lutte syndicale. On ne se précipite pas comme ça.
Pour Dr Faustin Dingaonarbe-Laubol, la suspension de cette grève est salutaire pour les enseignants-chercheurs.
Quand il y a un problème qui se pose, chacun interprète de sa manière. Comme nous sommes une instance de décision, si on voit quelque chose qui peut arriver aux enseignants, on prend notre responsabilité de les sauver d'abord et les expliquer pourquoi on a fait ça. Donc le SINEX reste un membre fondateur de la plateforme de revendication syndicale. Ce n'est pas une trahison d'ailleurs. Eux-mêmes, ils savent à peu près pourquoi nous sommes partis.
Les responsables de la plateforme revendicative syndicale ont tenu une rencontre d'urgence ce mardi matin pour statuer sur la question, mais rien n'a filtré pour le moment. André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, l'arrestation d'André Okombi Salissa, candidat malheureux à la présidence ayant contesté la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Selon des sources concordantes citées par l'AFP, M. Okombi a été appréhendé dans la nuit de lundi à mardi et serait détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire, la DGST, à Brazzaville. Côté famille du détenu, on laisse entendre que l'opposant qui vivait caché a souhaité se livrer à la police, qui n'avait fait aucun effort pour l'arrêter. Les autorités l'accusent de détention illégale d'armes de guerre. Avec 4 autres opposants, André Okombi Salissa avait constitué un front pour barrer la route à la réélection de M. Sassou Nguesso lors de la présidentielle de mars 2016. Un autre candidat à la présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, est détenu depuis juin pour atteinte à la sûreté de l'État. Promotion de la paix en Centrafrique, l'Union européenne a nommé le général de brigade belge Hermans Ruiz en remplacement de Français à la tête de sa mission de formation de l'armée centrafricaine. Le général Ruiz remplacera à Bangui le général français Eric Hautclocq-Reiss à compter du 16 janvier, précise le Conseil de l'Union européenne dans un communiqué aujourd'hui. Lancée en juillet 2016 pour une période de 2 ans, la mission militaire européenne en Centrafrique a pour objectif de rendre les forces armées centrafricaines, les FACA, modernes, efficaces, inclusives et démocratiquement responsables. Et pour terminer, l'Iran confirme avoir reçu une invitation de l'Arabie Saoudite pour discuter du retour au pèlerinage de la Mecque des fidèles iraniens absents du Hajj l'an dernier dans un contexte de tension entre les deux pays. Une délégation iranienne se rendra en Arabie Saoudite le 23 février, annonce Ali Ghazi Asghar, le représentant du guide suprême iranien pour le Hajj. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.